Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado de diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci, très étonnamment, est l'épisode numéro 92. Et quand je dis étonnamment, ça fit bien parce que 92, comme c'est mon année de naissance, puis cette semaine, ben... vendredi,
c'est ta fête bientôt, hein?
C'est vrai, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi de manière plus importante, le 43e anniversaire de la première victoire de Gilles Villeneuve en Formule 1 et qui a eu lieu au circuit Gilles Villeneuve, au circuit de l'île Notre-Dame, en fait. Donc, c'est un moment historique dans l'univers de la Formule 1, surtout ici. Puis oui, c'est mon anniversaire aussi, en pleine séance d'essai libre du Grand Prix de Turquie. Donc, voilà, ça tombe bien, c'est l'épisode 92. Cette semaine, on va parler de la Formule 1 au Qatar, parce qu'on maintenant le calendrier 2021 est complet, et on entendra beaucoup parler de Qatar au cours des prochaines années. Et on va parler aussi de l'impact qu'a eu Liberty Media sur la Formule 1 depuis leur première présence dans le cirque il y a de cela 5 ans, avant même qu'ils achètent la Formule 1. Mais avant de débuter, j'ai un petit éditorial, quelque chose qui m'a touché en fait cette semaine. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est produit lundi, Marc-André Annamaria?
Et la NASCAR, peut-être?
Non, c'est pas ça. Il y a eu une panne mondiale avec Facebook,
oui,
Instagram.
Oui, oui. Ah, j'avais oublié. Ça m'a pas touché beaucoup.
Ouais, exactement. Mais il y a eu plus important ça. Effectivement, il y a eu la course de NASCAR à Talladega. Évidemment, la course avait été à la base repoussée à lundi en raison de la pluie. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que Bubba Wallace a remporté sa première victoire en Cup Series et il est devenu ainsi le deuxième pilote afro-américain à remporter une course dans la première division depuis Wendell Scott en décembre 63 à Jacksonville, effectivement. Et la raison pourquoi j'en parle, parce que c'est une victoire importante dans un monde où on essaye de combattre les injustices, à essayer de rendre le monde un peu plus égal, que les personnes, peu importe leur peu importe leurs origines, leurs différences sexuelles, ethniques, etc., aient au moins l'opportunité de se faire valoir dans ce qu'ils aiment. Et surtout dans un sport où, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de racisme, surtout dans le cas de Bubba Wallace, qui en a vécu, entre autres depuis que il y a eu cette histoire du retrait du drapeau des confédérés, l'histoire du Black Lives Matter aussi avec George Floyd, où il s'était impliqué grandement, ce malentendu avec l'histoire du nœud, justement, je pense que c'était à Talladega que ça s'était produit, mais je pense que c'était important que je le souligne personnellement, parce que c'est un message fort qu'on lance pour dire, si vous travaillez fort, malgré toute la bullshit, et ça, ce sont ces mots qui se disent, si malgré toute la bullshit, vous parvenez quand même à travailler fort et à ignorer les haters, vous êtes capable de succéder. Et en plus, ça tombe bien qu'ils gagnent, parce qu'avec Facebook, Instagram et compagnie, il a souvent été victime de propos racistes. Et ça continue encore. Et même si les gens vont continuer à dire qu'ils ne méritent pas sa victoire parce que la course a été suspendue en raison de la pluie qui s'amenait, une victoire, c'est une victoire. Donc, félicitations, Baba. Profite de ta victoire et pour les autres, socket. Alors, maintenant que le tout est fait, on va passer à un autre sujet. Donc, la Formule 1. On va revenir sur la Formule 1. Finalement, on connaît c'est un secret de polichinelle. On connaît l'identité du remplaçant du Grand Prix d'Australie du 19 au 21 novembre prochain. Et ce sera le Qatar, comme c'était annoncé D'abord, en exclusivité par racefans.net, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, que le Qatar aurait été un candidat fort probable pour remplacer l'Australie. Et là, on a appris aussi que non seulement cette course va être présente cette année, mais pour les 10 prochaines années. Donc, à partir de 2023, évidemment, ne pourra pas accueillir aucun autre événement sportif en 2022 en raison, entre autres, de la Coupe du monde de soccer qui aura lieu au pays. Alors, je vous demande, Marc-André Fortin et Anna-Maria Mercado-Lopez, d'abord, comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, merci. Alors, je veux vous poser la question, est-ce que, sur un point, quelle est votre impression sur l'arrivée du Qatar d'un point de vue sportif? Wow! OK. Donc, ça part bien.
D'où commencer? On dirait que je ne sais pas. Je pense que le circuit qui ont l'air d'avoir montré me semble un peu comme Bahreïn, mais à une différence près, la vitesse a l'air moins présente.
Ouais.
D'après ce que j'ai cru un petit peu observer, l'avantage, je crois, c'est que ça va être un Grand Prix qui va être sous les projecteurs. Moi, c'est pratiquement pas mes Grands Prix préférés. Je dirais qu'ils ont un petit cachet important pour moi. Tu sais, tout ce qui est Singapour. Singapour, c'est magnifique. La lumière reflète sur les voitures et ça donne un visuel extraordinaire à la télévision. Donc, c'est sûr que ça, c'est peut-être un petit plus pour moi. Mais honnêtement, la piste me rend un peu mal. Tu sais, c'est pas, j'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens quand je regarde la piste. Mais en même temps, je me souviens que je critiquais énormément Bahreïn numéro 2 l'an dernier et que finalement, on a eu un spectacle quand même assez impressionnant.
Oui, parce qu'il faut préciser que le Grand Prix de Qatar aura lieu sur le circuit international de Losail à Doha, la capitale du Qatar. Et en plus de ça, c'est un circuit de 5,38 km et ça va être... Et normalement, accueille les courses de MotoGP, donc le Grand Prix du Qatar, entre autres.
Et... Ça ressemble un peu à une couronne, je te dirais, quand je le regarde un peu.
Oui, effectivement, ça ressemble à une... C'est vrai que ça ressemble à une couronne. C'est un circuit avec 16 virages, une longue ligne droite, un enchaînement virage 12, 13 et 14 similaire à celui au virage 8 de Istanbul, la prochaine destination. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Bahreïn, surtout le premier enchaînement, les quatre premiers virages en fait. Et effectivement, ce sera une course nocturne. Donc, avec Singapour, la course aura lieu à 18h, mais comme c'est en novembre, c'est sûr que là ça va être en pleine nuit. Donc c'est ça, c'est une petite précision aussi. Mais aussi une autre parce que on ne s'attend pas à revoir Losail d'ici les 10 prochaines années parce que on pense que la course pour les de 2023 jusqu'à 2032-33 aurait lieu sur un circuit urbain. Donc, ça aussi, c'est une petite précision à ajouter. Et toi, Anna-Maria, qu'est-ce que tu en penses, point de vue sportif?
De point de vue sportif, je me laisse surprendre parce que, ouais, je n'ai pas trop convaincu de... Oui, ils ont montré un circuit et ont trouvé un remplaçant. On dirait que les affaires ils vont bien. Hein? Il y a Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn.
Mm-hmm.
C'est ça.
Donc, je vois que vous êtes un peu hésitant sur le point de vue sportif.
Ouais. Non, mais parce que... Qu'est-ce que je veux dire? On passe 2021, on parle trop d'inclusion, des droits de l'homme, de beaucoup de choses. La FIA, ils se mettent en beaucoup de choses, ils font beaucoup des compromis aussi. On va faire des choses pour les sports, pour l'inclusion, pour les droits de l'homme, pour respecter les... Et après, ça ne les dérange même pas. On fait un Grand Prix à Qatar, on fait un Grand Prix à Arabie Saoudite, on fait un Grand Prix à Bakou, ouais, c'est ça.
Oui, Marc-André, tu voulais répliquer?
Ouais, le problème en ce moment, c'est que la FIA montre clairement que son seul point d'importance est l'argent, et
ouais,
seulement l'argent. Tout ce qui vient avec, et ça, c'est avec plusieurs réponses de, par exemple, Amnesty International, qui ont
ouais,
plusieurs publications dans ce sens. C'est malheureux parce que le sport de la Formule 1 est mondial et je crois qu'il est important quand même que, parce que, bon, on oublie des fois que c'est une entreprise privée quand même. Donc, elle a le droit de faire ses choix, elle a le droit de d'aller de l'avant avec ce qu'elle veut faire et son point de vue de l'argent est totalement correct parce que c'est à eux de décider ce qu'ils font. Par contre, je crois qu'ils ont une responsabilité quand même de respecter les droits humains et justement de ne pas faire la promotion de pays comme ça qui, on le sait, ce n'est même plus un secret polichinelle. Ce sont tous des pays qui les droits des hommes ne sont pas très bien respectés. Et honnêtement, c'est un peu inacceptable que la Formule 1 aille dans ces pays-là, montre à quel point c'est beau, alors que le travail en arrière du Qatar est énormément fait par des gens qui ne sont sous-payés et qui, malheureusement, des fois, ne sont même pas payés. Donc.
Il y a en plus, mais comme dit Marc-André, c'est une entreprise privée, il y a tout à fait les droits. Mais si tu fais ça, mais... Fais pas nous faire croire que tu fais quelque chose pour, parce que c'est ça qui promotionne la FIA tout le temps, les droits, les droits, les droits. Mais au moment de confirmer un Grand Prix, ça ne le dérange pas, ça ne le dérange pas. Et en plus, la FIA, il dit rien. Les pilotes, oui, ils ont sous responsabilité aussi, et juste la fermer, c'est tout. Ils vont rien dire, ils vont se présenter, ils vont courir son Grand Prix, ils se finissent. Après, ils vont faire la promotion, qu'est-ce qu'ils veulent des droits de l'homme, des droits de planète, de toutes ces choses qu'ils veulent militer, mais au moment de faire un vrai choix, de s'engager comme il faut, ils ne font pas.
Avant de vous laisser continuer, parce que vous avez sauté, en fait, ce que je voulais faire, je vous rejoins évidemment, sur tout cet aspect d'argent et tout, de droits humains. Mais il faut pas oublier un truc aussi. Premièrement, ce n'est pas la FIA qui gère ça, c'est la
Liberty
Media.
On ne sait pas pourquoi, parce que c'est lui qui régule, c'est la FIA. Mais comme ça, Sochi, je m'attendais à Sochi, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'ils sont, pénalisés pour la question de dopage. Et ils ne peuvent pas Mazepin ne peut pas porter le drapeau de la Russie, ils ne peuvent pas faire l'hymne national. Et j'ai dit, je m'attends pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire à Sochi, mais au moins, ils m'ont surpris parce qu'il n'y a pas eu de national, de drapeau, rien. Okay, c'est correct.
OK. Mais là où je voulais continuer aussi, c'est que là, je ne vais pas m'éparpiller non plus. C'est qu'actuellement, oui, je comprends que le Qatar fait... L'arrivée du Qatar fait écarquiller bien des yeux. Et moi, c'est plus du côté... 2023, mais ça, j'y reviendrai après. Cette année, bon, évidemment, dû la situation...
Je vais juste finir
ce que j'avais à dire. Désolé. Actuellement, avec l'Australie qui est annulée et le désir de la Formule 1 d'avoir un calendrier maintenant, avant avec 23, maintenant 22... Où je regarde la liste des circuits de grade 1, ceux qui n'ont pas de circuit présentement, outre Bahreïn, il y a aussi, je vais vous donner quelques exemples, Autodromo Estoril au Portugal, Mugello, Bud en Inde, à New Delhi, Buriram en Thaïlande, Manicourt, Mont Fuji, mais oubliez ça, le Japon ne veut pas, Hockenheim, Sepang, Corée, Dubaï aussi, mais il fallait que... Mais pour ça, il faut que quelqu'un soit intéressé à vouloir accueillir un Grand Prix. Et je sais qu'il y en a... J'ai lu beaucoup de gens qui ont dit, ben, pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas à Sepang? Sepang ne s'est jamais montré intéressé, et même eux, là, je pense, la situation épidémiologique... La situation pandémique ne semble pas être au beau fixe aux dernières nouvelles, à moins que je me trompe, et ils ne se sont jamais manifestés. Même chose, surtout pour les circuits européens qui n'ont pas de place. Non seulement personne ne s'est manifesté, mais la météo en novembre, c'est peut-être autre chose, à part peut-être Portugal et en Espagne, parce qu'il y a Jerez, il y a Motorland Aragon, il y a même Valence aussi, le circuit Ricardo Tormo.
Tout proche, hein, il y en a pas, nous, en Espagne.
Ouais, il y en a. Et en plus, avec le fait que, bon, il y a le Grand Prix du Qatar va être la fin du programme triple avec Mexique et Brésil. Mais encore là, qui s'est manifesté pour accueillir, pour remplacer l'Australie? Personne, à part le Qatar.
Mais Adou, c'est pas une excuse. Quand toi, dans ton calendrier, Bendou Grand Prix, tu peux bien annuler un. L'année passée, ils se sont arrangés, ils ont annulé des Grands Prix, ils se sont arrangés, ils ont fait des programmes doubles à Silverstone, des programmes doubles à Austria.
Oui, mais là, la question n'est pas, ce n'est pas un Grand Prix de remplacement, c'est tout simplement un nouveau Grand Prix qui arrive parce qu'ils ont signé un contrat de 10 ans.
Donc, oui, eux, mais Adou, il parle de cette année.
Il voulait absolument ce Grand Prix-là.
Oui, c'est ça, mais et à quel prix?
Ben, à quel prix? Ça doit être un prix faramineux. C'est clair. Mais ce qui me dérange encore plus, c'est que, bon, la température fait en sorte que tous ces Grands Prix se retrouvent à la fin de la saison, à un moment qui va tellement être important. Puis, encore plus cette année, avec la course infernale que nous allons avoir. Donc, tu mets encore plus, désolé l'expression de l'aise, mais l'exposé, tu vas mettre l'exposition encore plus grande sur ces événements parce que tu ne veux absolument pas rater ça. Fait marquant, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, je ne le regarderai pas encore. Donc, même si Max peut gagner le championnat-là, je ne serai pas un téléspectateur de cet événement. Maintenant, j'espère ne pas changer d'idée à la toute fin. Mais pour l'instant, j'ai encore pris la décision de ne pas le regarder.
On fait une fois pour le rater. Mais c'est ça. Et après, tout ce qui s'est passé avec la FIFA, tous les scandales des mondes qui étaient en prison, juste parce que tu connais Adou, ils ont décidé de donner ça à Qatar.
Ouais.
C'est ça. Et après tout ça... Si tu viens me dire, ok, c'est bien, on va faire un Grand Prix là-bas, c'est cool, ok, allez, on brûle l'essence encore.
Ouais, non, mais c'est...
J'ai pas vu les détails financiers, est-ce qu'on les a?
Non.
Non, ils vont pas donner les détails financiers, mais c'est sûr qu'ils sont bien.
Ben, là où je vous rejoins, parce que évidemment, moi je parlais de pour cette année. Évidemment, parce que, comme j'ai dit, à part le Qatar et peut-être le Bahreïn, qui d'autre s'est manifesté? J'ai rien entendu.
Il y a plein qui faisaient la main comme ça en Italie, en Espagne.
Pas cette année, on dirait.
Pas cette année, je trouve. Parce que peut-être en octobre...
On en a entendu beaucoup plus parler.
Parce que peut-être si la Turquie n'était pas dans les... si c'était pas possible de rouler en Turquie, déjà que la course était supposée remplacer celle à Montréal en juin, ils l'ont remplacé par le Grand Prix du Japon, techniquement, en fait. Mais, ils l'ont pas remplacé, je veux dire, ils ont annulé une course, mais Tu vois, c'est... À part ça, il n'y a personne... Moi, j'ai... À part, il y a eu peut-être des discussions avec Mugello, si jamais la Turquie devait être annulée, mais cette année, personne d'autre s'est manifesté. Et le 4...
Mais, et le 4 mais ma question aussi. Avec quoi... Pourquoi c'était aussi nécessaire? Parce que de toute façon, je pense que personne n'aurait dit non à un cours, peut-être pas public, parce que Qatar, qu'est-ce que regarde, il va aller qui?
C'est une question, c'est évidemment tout ce qui est sponsor.
C'est la même chose que passe, la même chose que varie, hein.
Mais c'est parce que le truc, c'est que évidemment, il faut c'est, je pense, c'est surtout avec un contrat avec les sponsors pour pouvoir payer le personnel, les écuries, entre autres. Toute cette histoire de partage de revenus, peut-être que c'est calibré en fonction du nombre de courses aussi. Donc, c'est pour ça que la Formule 1, elle était, je dis têtue, mais elle s'entête à avoir ces 22-23 courses et surtout pour l'année prochaine aussi parce que évidemment, avec les contrats TV, les nombreux sponsorships qui risquent de venir aussi avec la F1 et surtout avec la crypto-monnaie aussi. Ils ont signé un partenariat avec la crypto-monnaie, surtout pour les courses sprint aussi. Donc, c'est de l'argent supplémentaire.
Qui est très polluante. Hein?
Aussi, oui.
Vous savez que la crypto-monnaie est très, très polluante.
Oui.
Et la F1, c'est...
C'est très compliqué.
Encore la contradiction.
C'est vrai, c'est très contre-productif le sponsorship avec la crypto-monnaie. Mais le point est que justement, s'ils veulent pouvoir être en mesure d'empocher de l'argent et de redistribuer ça aux écuries, j'ai dit de manière équitable entre guillemets.
Je pense qu'ils sont allés à Qatar chercher les surplus qu'ils ont besoin pour payer la course sprint.
Je pense pas qu'il y aura de course sprint au Qatar de toute façon. Peut-être
non, mais
à l'avenir.
Parce que la FIA ici, Liberty, on fait un compromis avec les équipes pour payer ou dédommager des équipes qui font des accidents dans la course sprint. Peut-être ils vont chercher les fonds.
C'est possible. Mais ça, c'est depuis le mois de juillet. Mais là où je vous rejoins, en fait, c'est que cette histoire de sports washing qu'on voit, puis c'est malheureusement pas la première fois qu'on en voit. Déjà que on a le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui décide d'organiser des événements sportifs comme la Formule E, il y a eu la WWE, il y a le Bahreïn aussi qui était un des pays où il y a eu ce fameux printemps arabe en 2011. Il y a Abu Dhabi aussi, les Émirats Arabes Unis. Toutes ces histoires de droits de l'homme, surtout au Qatar avec l'arrivée de la Coupe du Monde l'année prochaine et cette histoire terrifiante avec la maltraitance des travailleurs pour contourner les stades. C'est juste dégoûtant la manière dont ils traitent aussi les femmes dans le monde, au pays, autant en Arabie Saoudite qu'au Qatar, plus, je dirais, dans certains pays musulmans, c'est juste un moyen pour plusieurs de se couvrir, en fait, pour éviter, pour dire, on est accueillant, et quand des personnalités vont s'afficher contre, justement, ils vont s'afficher pour le droit des femmes, pour le droit pour les droits de la communauté LGBTQ+,
tout simplement la liberté d'expression aussi.
C'est ça.
Mais oui,
il y a des
journalistes qui se font couper la tête. Hein?
Ouais.
Littéralement.
Oui,
littéralement.
Ils se font emprisonner.
Oui.
C'est des exemples pleuvent là, dans ces pays-là. Donc, pour toutes ces raisons, la Formule 1 me déçoit énormément dans ces dossiers-là parce que, visiblement, l'argent est plus important que responsabilité que une compagnie comme ça doit avoir envers ses fans, envers ses partisans, envers la communauté mondiale au complet. Mais bon, si la FIFA y va, la Formule 1 doit se dire, doivent sûrement se dédouaner en se disant, ah ben, si la FIFA y va, nous, pourquoi on n'irait pas?
Et encore oui, là, la FIFA, et encore là, la Coupe du Monde du Qatar aurait été, je dis bien aurait, parce que je sais qu'il y a eu des histoires il y a des soupçons de corruption.
Non, il n'y a pas de soupçons, il y a des mondes qui étaient vraiment accusés.
Ouais, de la corruption, ben ça, avec la FIFA.
La FIFA, ce n'est pas la première fois non plus.
Ouais,
j'en ai vu
depuis. Mais c'est ça qui me dégoûte le plus, c'est que avec la FIA, c'est dit, OK, et tu t'assumes, tu vas aller là-bas, mais. Fais pas croire que tu fais quelque chose pour les droits, pour l'inclusion, si en même temps tu es l'agent de ce pays et peu importe.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est ça, c'est une question d'argent, évidemment. Puis même Stefano Domenicali, quand on lui a posé la question, il a dit que le sport va aider justement. Attendez, je vais juste retrouver la déclaration. On est en train de parler de sport. On parle d'une plateforme qui a l'objectif de créer du fun et d'unir le peuple. J'en doute.
C'est lui qui est le seul gagnant, c'est Qatar, c'est pas le sport.
Il dit aussi, le sport va aider et à augmenter la positivité et les bonnes valeurs de chaque grand prix, de chaque pays où on va.
Mais est-ce qu'ils font courir la W série à Qatar?
Non, parce que la saison se termine la saison se termine aux États-Unis. C'était pas prévu, mais
il était bien fait les calendriers, ils ont pas mis des courses à Russie, je ne sais pas.
Mais ça, c'était pour une question de logistique, évidemment, parce que c'est sûr que transporter même la course de Formule 3 qui devait avoir lieu à Austin dans 2 semaines a été annulée. Donc, mais c'est vrai que si jamais ils veulent vraiment montrer, ils veulent amener unifier le peuple comme Domenicali le dit. J'aurais mis les courses de la série W au Bahreïn, au Qatar, surtout en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. J'ai dit ça comme ça. S'ils veulent vraiment le faire, mais moi personnellement, tant qu'il n'y a pas de changement concret, c'est sûr qu'on va rester très cynique par rapport à ces pays. Même en Hongrie, avec le parti d'extrême droite au gouvernement qui a décidé de punir d'imposer des sanctions entre autres à la communauté LGBTQ+, excusez-moi si j'ai du mal à le prononcer, mais encore là, tu vois, il va falloir que la Formule 1 soit plus concrète dans ses actions du We Race as One, parce que c'est bien beau de vouloir parler, mais il faut agir en conséquence.
Oui, parce que c'est bien beau, les annonces dans des papiers, ils disent on va faire ça, mais après, on cherche c'est quoi qu'ils ont fait.
Ben, c'est ça, on n'a pas encore eu de résultats.
Mais regarde, depuis longtemps, ils parlent de. Il n'y a pas enfin un F1.
Pas encore.
Non, mais il va pas avoir. Pourquoi? Parce que oui, ils fichent des personnes comme la fille
Jamie Chadwick, chez Williams.
Jamie Chadwick est chez Williams, mais est-ce qu'elle y a roulé au moins une fois?
Bah, pas encore.
Dans 12 F1, la seule qui a réussi à faire ça, c'est Tatiana Calderon. C'est parce que ses sponsors ils ont
poussé.
Ils ont contribué.
Mm-hmm.
Mais dans toutes les équipes, ils sont mis à afficher quelqu'un, un fan, un pilote. Et après, c'est juste pour dire, ah, on contribue, mais c'est juste pour la mettre en avant et dire, et là, mais...
Et toi, Marc-André, si on retourne la médaille, est-ce que tu crois que l'arrivée de la Formule 1 dans des pays comme justement le Qatar, en Arabie Saoudite, est-ce que tu crois que la Formule 1 pourrait en quelque sorte tenter d'unifier le peuple et de faire croire juste d'unifier le peuple et tout?
Bah, écoute, je doute énormément parce que la Formule 1 a un grand pouvoir pour ses partisans, mais pas pour le reste. T'sais, c'est une... à la toute fin, c'est une belle entreprise privée et un divertissement. T'sais, on parlait de leur futur peut-être contrat avec Netflix, mais ça reste un divertissement, la Formule 1. Mais qui peuvent chausser de grands souliers et faire avancer la société malgré tout par la présence des pilotes, par tout ce que ça peut amener. Je pense qu'ils peuvent énormément améliorer le tout. Donc, écoute, unifier le peuple, je pense que c'est un grand mot. C'est un grand terme. Mais je suis d'opinion que, oui, la Formule 1 peut changer de grandes choses dans la communauté, parce que le sport en général, les sportifs peuvent faire changer des opinions. Puis Lewis Hamilton en est un bel exemple. Je crois vraiment que les gens qui ont amélioré leur façon de penser à cause de lui.
Mais c'est ça, c'est parce que c'est pas un changement qui va arriver sur le tas, c'est quelque chose qui est à long terme. Donc si tu veux inculquer les valeurs, c'est pas immédiatement que ça va changer, ça va être sur le long terme, et j'espère que en poussant, ça va peut-être inspirer d'autres gens à vouloir peut-être changer leurs valeurs, mais c'est quelque chose de très difficile à faire, mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut se faire.
C'est difficile, mais en tout cas, des fois je pense que avant il faisait un peu plus que maintenant, parce qu'avant maintenant c'est juste la publicité, la promotion, comme disant oui, on veut faire ça, on veut faire ça. Ils font toutes les choses juste pour figurer, pour avoir là qu'ils font quelque chose. Mais je me rappelle qu'avant, quand il arrivait le Grand Prix du Canada, on voyait des pilotes à la ronde pour faire l'éducation, pour la conduite, parce qu'il y a plein de gens qui vont là-bas. Il y avait des fois Schumacher, il y avait des fois Massa, et il y avait des écoles qui avait des pilotes qui allaient de ses écoles primaires, à parler avec le monde, ils faisaient des choses, et maintenant, ça fait longtemps, ils font rien de ça. Et avant, ils allaient, comme Gino Rosato, ils allaient à Montréal, non? Et des fois, ils visitaient des écoles, oui, c'est ça, notre Gino Lavalois.
Étonnamment, j'ai habité à Montréal Nord et puis je l'ai malheureusement pas vu, mais bon, ça. J'ai digresse.
Mais maintenant, ils font rien de ça. Il y avait des pilotes qui allaient à des petites écoles primaires, ils faisaient des choses. Et... Non, maintenant, on dirait qu'ils font juste des photos pour la promotion Instagram, Facebook, voilà.
C'est ça.
Mais ils font pas des choses concrets, des choses qu'on peut dire, oh, wow.
Mais oui, je comprends tout ça, mais c'est ça, c'est que maintenant on est dans l'ère des médias sociaux, donc tout doit se rendre là-bas. Et peut-être que justement, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de si vous avez entendu parler de F1 in Schools. Ça pourrait être un bon moyen justement d'amener ça au Qatar. Dans des pays comme le Qatar et en Arabie Saoudite, justement des projets de ce genre avec la Formule 1 pour, disons, pas inciter, mais pour, disons, attirer des jeunes à apprendre les rudiments de la science et de la technologie, et même de l'univers des médias, de la communication, grâce à la Formule 1. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait autre avec la forme, avec la, la tenue de, d'une course de Formule 1 qui pourrait amener des enfants de n'importe quelle classe sociale à s'intéresser au sport et peut-être à se bâtir un rêve et à travailler fort pour justement atteindre la Formule 1, peu importe d'où tu viens. Donc, moi, je pense que ce sont des projets du genre qui doivent mettre un peu plus en l'avant, pas seulement créer un compte, des comptes des médias sociaux où tu as par rapport à, par exemple, le Paddock Club de F1, les F1 Experience, avoir une
petite... Très VIP et...
Très VIP.
Dispendieux.
C'est ça. Quelque chose de plus inclusif, de plus... qui a une bonne portée. Et je pense que peut-être ça, ce serait... Si justement on veut unifier... Justement, on veut unifier le peuple grâce au sport, ben, des projets comme F1 in Schools seraient un très, très bon moyen à amener dans ces pays, justement, au lieu d'essayer de tout diviser.
Donc, exact. Puis, je trouve que dans ton approche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Formule 1, Liberty Media, étant une entreprise privée, ne fait pas non plus la morale aux autres pays, parce que souvent, c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas faire la morale dans les autres pays pour pas blesser ou se
mettre
de côté le pays.
Pour pas
donc,
nuire.
Je trouve que ce qui est bon dans tout ça, dans le F1 in School, c'est que tu viens aider la communauté, tu viens aider ta propre entreprise, tout en mettant de l'avant de bons programmes qui peuvent réellement aider les enfants et en les incitant à la technologie, à l'ingéniosité et tout ça, ce que tu as également, c'est que tu peux subtilement glisser des valeurs nord-américaines, mais des valeurs qui sont normales et qui sont je sais pas comment les nommer, mais loin de ce qu'on peut avoir dans ces pays. Tout subtilement, donc, c'est ça.
Exact. Puis, tu vois, je regarde, par exemple, il y en a eu cette année, ça s'est tenu, en Grande-Bretagne, mais tu vois, il y a des pays, par exemple, F1 in Schools, tu as l'Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bermude, le Canada est là aussi, l'Arabie Saoudite, donc il y a des écoles un peu partout dans le monde qui participent à F1 in Schools, mais moi je pense que ça personnellement à la place que ce et puis je regarde aussi ça a même été diffusé sur Sky Sports F1, mais là on a F1 TV, ils ont les médias sociaux, justement, pourquoi ne pas, pendant un week-end de Grand Prix, justement, dans ces pays-là, diffuser les événements, justement, pour, comme Fusion Jeunesse l'a fait avec les compétitions de robotique FIRST, auxquelles j'ai participé. Uh-huh. Et ça, c'était vraiment cool à faire parce que, surtout dans le coin où j'ai vécu à Montréal-Nord, il y avait énormément il y avait une énorme diversité. Et puis tout le monde s'entendait très bien. Donc, si tu peux faire la même chose avec F1 in Schools dans des pays où justement les valeurs, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, ne sont pas aux yeux de la population générale globale très, très respectées, ben, tu vois, tu peux au moins faire ce genre de projet pour justement essayer de changer les mentalités. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est, c'est un long processus. Comme le dirait Mikel Arteta, trust the process. Mais, je veux revenir un peu dans l'aspect sportif. Juste rapidement, avant qu'on passe à l'autre sujet, est-ce que vous pensez qu'un circuit urbain à Doha, ce serait une bonne idée? Ben, si c'était le cas, parce que ce sont les rumeurs apparentes que bon, d'ici 2023, ben la Formule 1 pourra aller dans les rues de Doha.
Ben écoute, s'ils réussissent à avoir un circuit intéressant, pourquoi pas? Mais encore là, il faut qu'ils construisent et il faut qu'ils fassent un tracé intéressant, pertinent. Parce que honnêtement, tant qu'à ça, reste dans un tracé qui est déjà connu. Je crois que la MotoGP va mettre les pieds cette année également.
Ah, ils sont là depuis
une couple d'années, c'est ça. Donc, c'est déjà un circuit connu par les organisateurs et les courses. Donc, moi, si tu m'amènes un projet qui est solide, qui a du poids et qui a une raison d'être, pourquoi pas? Mm-hmm. Parce qu'honnêtement, à Singapour, moi, c'est l'un de mes circuit favori. C'est toujours l'une de mes courses favorites. Donc, si tu m'amènes un projet intéressant, amène-moi-le. Il faut qu'il soit pertinent.
Ouais. Et toi, Anna Maria?
Je n'ai pas beaucoup à dire. Je dis déjà, c'est comme. Si pas trop d'accord qu'il y a un Grand Prix là-bas, mais de là, parler d'un projet de circuit urbain, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore.
Ouais.
Parce que comme je reprends ce que dit Marc-André, il faut faire quelque chose d'intéressant. S'ils font quelque chose qui est intéressant, que ça peut marcher, ben, tant mieux.
Mmh, ouais. Enfin, on verra comment le Grand Prix du Qatar 2021 va se dérouler. Mais bon, sur une course de Formule 1 sur un circuit spécialement fait pour les courses de motocyclettes, de moto, pardon. On verra ce que ça va donner. Mais je sais que, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être généralement bien accueilli. On va passer maintenant au prochain sujet, en fait. Je lisais ça un peu plus tôt ce matin. En fait, je voulais qu'on parle des essences, mais on va en reparler la semaine prochaine. Ce matin, au moment d'enregistrer, j'ai lu un article sur racefans.net. Je mettrai ça sur le lien sur le site bulletingp.com. Il parle en fait de qu'est-ce que l'impact de Liberty Media sur la Formule 1 en 5 ans? Je sais que techniquement, Liberty Media a pris le contrôle de la Formule 1 dès 2017, mais la première présence officielle de Chase Carey, qui était à la base le PDG de Liberty Media, c'était vers la fin du mois de septembre 2016, au Grand Prix de Singapour, course que Nico Rosberg a remporté d'ailleurs. Et ensuite, Liberty Media a racheté la Formule 1 quand Bernie Ecclestone a quitté. Et là, il y a eu un tas de changements, plus de 100 courses, je te dirais, avec la Formule 1. Donc, je vais vous en nommer, en fait, quelques-uns des impacts que la Formule 1 a eu. D'abord, le logo a changé en 2018. Ensuite, il y a eu, l'arrivée de des changements majeurs au niveau des règlements sportifs, règlements financiers, entre autres, avec l'arrivée d'un cap salarial et même des règlements techniques, entre autres la nouvelle voiture qu'on va voir l'année prochaine et qu'on était supposé même voir cette année s'il n'y avait pas eu la COVID. Il y a eu aussi l'arrivée d'un nouveau format de course, d'un nouveau format de fin de semaine, les qualifications sprint. Et ils ont même réussi à mettre le Grand Prix de Monaco à 3 jours dès la saison prochaine. Ils ont signé, évidemment, Drive to Survive aussi, ça a été un gros, gros, gros coup. Quelque chose que Bernie Ecclestone n'aurait jamais fait de son vivant, en fait.
Il doit encore se tirer les cheveux.
Exactement.
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon entreprise?
Ah, écoute, je sais pas qu'est-ce Je sais pas s'il fait des crises d'honneur en voyant ça. L'arrivée de F1 TV aussi, dans, maintenant un peu partout dans le monde, dont ici. Des contrats de TV renouvelés, entre autres l'arrivée de ESPN. Et un calendrier qui a changé avec l'arrivée, entre autres, de Miami l'année prochaine et, ce qu'on, et le retour de, des Grands Prix de France et des Pays-Bas et ce qu'on aurait pu avoir comme Grand Prix du Vietnam l'année dernière et même cette année. Mais
le Grand Prix de Vietnam.
Ouais, quelqu'un...
Mais ça, c'est un raté. Hein? Ça, on peut... Vietnam, on ne peut pas le mettre dans les réussis. Hein?
Oui, c'est ça, je pense.
Ben, c'est une autre honte aussi.
Mais ça, moi, je te dirais, c'est pas vraiment de la faute de Liberty Media. C'est plus la première, c'est mais à non, cause de la COVID.
Je ne parle pas de ça, je parle de la façon comme il était fait.
Ouais. True. Donc, c'est ça. Comment vous voyez l'impact, comment vous qualifiez l'impact de Liberty Media sur la Formule 1?
Totalement positif.
Totalement positif, oui.
Honnêtement, quand tu regardes tout le travail qui a été fait depuis 5 ans, la Formule 1 s'est transformée. Des petits détails aussi, tu sais, l'infographie avant les courses, la chanson thème, c'est tout simple. Quand tu regardes celle qu'il y avait avant Liberty Media, c'était simple, laid, et tous les autres qualificatifs pour dégoûtant, vous pouvez les utiliser. Parce que c'était un peu ça, c'était fade. Maintenant, ils ont amené une bonne chanson thème avec un chef d'orchestre qui était très connu pour ses...
Brian Tyler.
Cinématographie. Donc, tout ça mène à le résultat qu'on a aujourd'hui. Ils veulent approcher les jeunes. Ils veulent approcher un électorat qui... Des spectateurs qui sont plus jeunes et qui vont vouloir grandir avec la Formule 1 et vouloir le montrer aux autres. Maintenant, je pense que, bon, comme dans tout, il y a quelques petits points négatifs. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils ont réussi à lever le niveau de la Formule 1. Et honnêtement, juste l'approche sur les réseaux sociaux, c'est beau à voir parce que les pilotes sont présents. Les pilotes sont aussi, disons, proches des gens malgré tout. Avec Bernie, écoute, c'était impossible d'avoir accès à un pilote pratiquement. Les médias ont énormément amélioré ça et ça l'aide aussi le produit à être meilleur.
Ouais.
Et durant la pandémie, je pense qu'ils ont surtout bien travaillé avec les rencontres personnalisées, avec les jeunes enfants, avec les partisans, je pense que c'était une approche qui était intéressant et surtout très formateur pour les gens.
Effectivement. Et puis, tu sais, et vous savez qu'est-ce que Bernie Ecclestone aurait dit à propos des réseaux sociaux? Je vais vous laisser entendre.
What is this?
Mais honnêtement, imaginez-vous, Liberty Media n'achète pas la Formule 1, on continue avec Bernie, on arrive en 2020... La pandémie frappe. Formule 1 fait quoi si c'est Bernie qui gère la Formule 1 pendant une pandémie mondiale?
On sait pas quand même.
Elle meurt parce que, honnêtement,
j'y pense pas.
Aucune présence sur les réseaux, aucune imagination, créativité pour jouer avec le calendrier. Lui, c'était tu paies ou pas, c'est fini. Donc,
c'est vrai.
Ça aurait été dangereux pour la continuité, du moins, de la Formule 1 durant les années de la pandémie. Là.
Mais je dirais que c'est pas tout négatif, Benny, parce que quand même, lui a réussi à avancer jusqu'à ce qu'il était vendu à Liberty Media. C'est lui qui a tout fait moderniser ça. Et je pense que même si lui était pas d'accord avec certaines choses, parce que surtout avec les gens, lui, c'est ce qu'il disait, c'est ce qui amène l'argent, c'est les parents, c'est ceux qui y a l'argent, mais lui, il comptait pas sur que les adultes fait qu'est-ce que les enfants demandent aussi. C'est pour ça qu'il faut montrer à les enfants, mais je pense pas non plus que avec la pandémie et tout ça, j'aurais crashé parce que lui, il n'y a eu jamais intérêt à perdre de l'argent. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, il disait, J'ai donné l'argent à tout le monde, les équipes, il y avait l'argent et lui il gagnait et c'est ça son politique, sa façon de penser. Mais c'est pas tout négatif, mais je pense que quand même Liberty il y a un impact positif, surtout au niveau de s'ouvrir à tout ce qui est les médias sociaux, à avancer la technologie. Marc-André a bien dit, la F1 sur Internet aussi, la F1 TV. Côté changement, oui, pour les gens, il était bien. La musique, le changement des logos, mais il faut comprendre aussi que pour les plus vieux, c'est comme qu'est-ce que tu as senti quand on a changé le logo de l'Impact, c'est ça.
Non, je ne veux pas rentrer dans cette discussion.
Non, parce que...
Tu vois.
Ça finisse mal.
Ça va mal finir. Ça va...
C'est parce que je comprends Marc-André, c'est très jeune à côté de moi et à côté de regarder la formule. Pour nous, les vieux dinosaures.
On ne comprendrait pas non plus le changement d'identité de la Formule 1 à celui de l'Impact. Là, c'est vraiment différent.
Non, mais pour nous, c'était toute la vie, hein? Avoir la même musique, les mêmes logos, mais pour ma fille, c'était « Oh, wow, c'est beau, ça a changé, c'est bien », mais pour moi, c'était comme « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?»
Ben, justement, vous vous souvenez sûrement de la fameuse... Ben, Anna-Maria en a parlé. Bernie Ecclestone, en 2014, avait dit « les jeunes enfants vont voir Rolex ». Est-ce qu'ils vont vraiment en acheter un? Est-ce qu'ils vont vraiment se le permettre? Ou UBS, qui était une banque suisse, ils intéressent à la banque? Ils ont même pas d'argent pour les Bloody Banks. Ce sont ces mots.
Ce qu'ils veulent maintenir toujours, c'est les statuts. Oui, c'est des mondes qui aiment la Formule 1, des mondes qui achètent des Ferrari, des mondes qui achètent des McLaren, des mondes qui aiment ça, des riches qui ont de l'argent. Pour lui, et dans sa tête, c'est ça qui a amené l'argent dans la Formule 1. Et lui qui disait... Il voulait pas être les mêmes publics que la NASCAR, par exemple. Il voulait pas des barbecues au circuit.
Mais tu vois, on parle de NASCAR, mais même là, en NASCAR, il commence à avoir un public un peu plus jeune en NASCAR aussi.
Mais oui, mais là, toujours, mais oui, NASCAR et IndyCar, c'est ça qui, Benny, voulait pas, il voulait toujours commencer sa petite touche de classe de Monaco, on peut pas l'approcher, la F1, c'est comme top, la catégorie, comment on dit, la maxime catégorie.
Ouais, la
catégorie. C'est ça, lui, il voulait garder ça, mais j'ai dit, c'est pas non plus mauvais, mais de côté, il y avait pas beaucoup d'accès. En même temps, je vois qu'est-ce qui c'était avant et qu'est-ce qui c'est maintenant. Et quand on allait au Grand Prix, il y avait plein de choses à voir, il y avait plein d'expositions, il y avait plein de voitures dans les circuits. Je ne sais pas si tu te rappelles, d'où, mais maintenant, on y va, il n'y a rien. Il y avait les Honda, ils montaient même des robots pour amuser le monde.
Mais il y a autre chose.
Mais avant, il y avait ça aussi. C'est sûr que ça changeait beaucoup. Mais je dis, c'est positif, oui, mais il faut que ça soit plus accessible encore, parce que maintenant, oui, c'est positif, mais il y a encore les grosses murets entre les paddocks et le public. Même si dit que sont trouvés, non, mais parce que c'est pas vrai qu'on a accès. Il y a les jurys qui signent des autographes, mais tu peux pas comme t'approcher, comme font comme il fait l'indicat. C'est juste pour les paddock club.
Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est que...
Et les pilotes, ça reste que on peut pas les approcher.
Mais c'est ça aussi, ce que j'aime, et ça c'est... Je vais reprendre... Bon, je vais le dire à ma manière. La Formule 1 a réussi à briser le quatrième mur de Bertolt Brecht. Comme le disait Bertolt Brecht, la Formule 1 maintenant est capable d'interagir avec le public, ce qui n'a jamais été le cas avec dans l'ère de Bernie Ecclestone. Et ce n'est pas pour, disons... Ce n'est pas pour rabaisser, pour dire que Bernie Ecclestone a fait du mauvais travail. Le problème, c'est qu'il ne s'est jamais adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et quand il a tout commencé dans les années 80 avec la Foca et tout, c'était quelque chose de révolutionnaire, les droits TV, maintenant, le fait de pouvoir diffuser les courses de Formule 1 en direct dans des chaînes maintenant spécialisé et aussi parfois dans les chaînes locales publiques. Maintenant tout est dans l'ère numérique et tout, mais Bernie Ecclestone aurait probablement gardé ça tel quel, il n'y aurait pas eu de changement et la Formule 1 aurait été peut-être dans un déclin énorme avec des équipes qui quittent, des pilotes qui ne seraient plus intéressés à aller en Formule 1 parce que bon, ça c'est un problème à part encore aujourd'hui, mais maintenant aujourd'hui force est de constater que Liberty Media a réussi à garder la Formule 1 à un niveau exceptionnel et à même se rapprocher même des...
Même si...
je dirais que l'échange de la Formule 1 s'est fait au bon moment.
C'est
ça. Je crois que Bernie, toute sa puissance et son autorité commençaient à se détruire un peu, commençaient à perdre un peu tout ça. Et Liberty Media est arrivé et a dit « OK, nous, on va prendre contrôle de ça. Bernie, merci pour tes services. Honnêtement, sans
mais
toi,
c'est lui-même,
ce
c'est
produit
lui-même.
Aurait... Oui, bien, il a vendu.
Au moins, c'est lui-même qui a pris la décision.
Exact.
Hein,
c'est vrai. Fait...
Seul Bernie pouvait prendre
lui
cette
a,
décision.
Lui a capitalisé et lui a fait ses affaires. Après, oui, il s'est retiré. Mais... Et quelque chose que je vais donner à Liberty, c'est le fait que quand il est arrivé, surtout en Europe, tout le monde y criait parce que la F1 est américaine, ils vont détruire, ils vont faire n'importe quoi. Et oui, le monde n'était pas content là-bas parce qu'il disait...
Il y avait Al aussi comme exemple.
Oui, il nous arrache la Formule 1. Et quand même, Liberty, il savait... Il a bien fait, il dans des affaires où les équipes n'ont jamais été capables de s'entendre. Il était capable de négocier et de faire consensus avec toutes les équipes.
Ouais.
Et que ça aussi, il faut le donner. Parce que le monde s'attendait qu'il disait, ben, il est parti, ça va cracher. Non, ça n'a pas craché. Ça a survécu. Et très bien.
Exactement. Puis pour conclure aussi, moi, je pense que la Formule 1, sur un court et moyen terme, s'en va sur le bon chemin, est sur un bon chemin.
Ouais.
Et si ça continue à long terme, si la Formule 1 continue de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, ben, elle va pouvoir être, excusez-moi le terme, relevant encore dans 20-30 années à peu près. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle que l'arrivée de Liberty. Et puis, même si jamais Liberty Media devait vendre la Formule 1, peu importe à qui, ben, au moins, la personne qui va avoir, qui va être en possession des droits commerciaux de la Formule 1 aura un sport qui est fort probablement en bonne santé. Alors, ça, c'est quelque chose que, maintenant, moi, je trouve que c'est plus intéressant de regarder la Formule 1 aujourd'hui que ce que c'était quand j'étais petit, parce que on a une couverture beaucoup plus élargie, beaucoup plus concrète. On peut, avec les réseaux sociaux, on peut suivre un peu plus bon, les pilotes, mais aussi avoir des archives, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle que l'arrivée de Liberty Media. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout ça, c'est parti de la vision de Bernie Ecclestone qui, malheureusement, dans la réalité d'aujourd'hui, le modèle qu'il nous proposait n'était plus en... était désuet. Donc, voilà comment je pourrais dire. C'est sûr qu'il n'y aura pas... C'est sûr qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Il y aura toujours des heureux et des frustrés, mais... Personnellement, force est d'admettre que la Formule 1 se porte beaucoup mieux. Les chiffres le prouvent aussi qu'il y a 5-10 ans à peu près.
Donc, effectivement.
Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP numéro 92. Ce sera le retour de l'émission d'après-course en direct à 10h30, parce que la course est à 8h, heure du Québec. C'est à 8h, c'est ça. Donc, 10h30 sur Facebook, Twitter et Twitch. Et évidemment, on a notre site bulletingp.com pour lire toutes, pour lire les chroniques d'avant-course, retrouver les épisodes de podcast aussi. On a aussi. Et vous pouvez aussi aller sur le groupe privé Facebook F1 Québec, qui, en passant, je tiens à féliciter les modérateurs. Il y a maintenant 2000 fans de F1 en date c'est d'aujourd'hui. Fou. Donc, un gros félicitations à Julien, à François, à Charles, à toute l'équipe des modérateurs qui ont réussi à bâtir une belle communauté F1, très respectueuse, auquel nous trois participons en plus. Donc, on va mettre le lien dans le groupe, sur la page du podcast du Bulletin GP. Donc, vous pourrez aller les rejoindre et discuter de Formule 1. Sinon, le podcast est disponible aussi sur toutes vos plateformes de podcast préféré et sur bulletingp.com. Alors, Anna Maria, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Merci à toi, Dou.
Ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous laisse parce que je m'en vais fêter mon anniversaire.
C'est bien. Bonne fête à Dou.
Merci beaucoup. Donc, on se retrouve dimanche. Pour l'après-course du Grand Prix de Turquie et sinon la semaine prochaine pour l'épisode numéro 93 du Bulletin GP. Alors, on continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée et même long week-end de l'Action de Grâce ici, peu importe où vous êtes.
Salut à tous!